9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran, en mode vacances, donc plus cool que jamais, ravi de te retrouver. Toi, auditeur, peut-être en congé de l'autre côté de la Méditerranée, ou toi, auditeur, bloqué sur le périph. Mais quelle que soit ta situation, nous allons t'accompagner durant une petite heure. Petite heure au cours de laquelle je vais tenter de répondre à tes interrogations exclusivement liées au droit, évidemment. Car s'il y a bien un domaine qui ne prend jamais de vacances, c'est le droit. Mais au préalable, je souhaiterais très officiellement vous dire, mon cher Philippe, de la part de Sheila, que vous avez probablement connue, « Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie, la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, mais oui, l'école est finie. » Et oui, l'école est officiellement finie pour les primaires depuis hier. Quel bonheur, quelle joie pour ceux qui attendent ces vacances depuis toujours et qui ont tellement besoin de se reposer. Je ne parle bien évidemment pas des élèves, mais des profs hein, qui sont, paraît-il, usés psychologiquement et qui ont besoin de quasiment 2 mois de vacances non-stop, en plus des petites vacances, mode de vie envié par n'importe quel salarié lambda. Alors, j'ai l'air moqueur comme ça, mais je dois reconnaître qu'être prof au sein de certains établissements est particulièrement usant psychologiquement, voire physiquement. J'ai un peu côtoyé ce milieu, mon cher Philippe, après avoir été surveillant, pion, comme on disait, durant mes études. Et j'ai eu le plaisir d'officier au sein de tous les établissements du 93. Et oui, un arabe parmi les élèves arabes. Je dois reconnaître que le surveillant que j'étais, avec le doux prénom de Mourad, était infiniment plus respecté que le surveillant portant le prénom de Sébastien ou Florian. Le racisme anti-blanc existe depuis bien longtemps dans ce pays. Mais laissons de côté ces histoires qui relèvent du siècle dernier pour évoquer une étude qui m'a particulièrement intéressé. Dans cette étude, on s'est posé la question suivante, comment les couples français se partagent les tâches pour organiser leurs vacances. Et on apprend quoi, mon camarade? On apprend que dans 60% des cas, c'est madame qui organise les vacances, c'est madame qui se repose le moins durant les vacances, car quel que soit le lieu de villégiature, madame continue de s'occuper des tâches quotidiennes, de s'occuper des enfants, pendant que monsieur se fait gentiment bronzer les couilles au soleil. Attention d'ailleurs, au de soleil à cet endroit, c'est particulièrement fragile, mais on relève surtout que pour les générations de moins de 25 ans, il y a une égalité totale pour l'organisation des vacances, l'accomplissement des tâches quotidiennes. Gageons que dans quelques décennies, ce seront les femmes qui pourront se faire bronzer les couilles pendant que monsieur devra s'occuper des enfants et des tâches ménagères comme un bolos. Ainsi va le sens de la vie. Mais avant de vous laisser, ayons une pensée émue pour ces quelques millions de moutons qui sont en sursis encore pour quelques heures, car bientôt, mes amis moutons, vous allez finir suspendus à un crochet, puis totalement dépecés. Allez, que vous aimiez le mouton ou pas, n'hésitez pas à nous appeler au 01 53 48 3000 pour vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui ne dirait pas non à de bonnes brochettes, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Je dis même oui, maître Serran. Enfin, c'est pas du vieux mouton, hein, c'est du... C'est un peu vieux le mouton, c'est fort le mouton.
Ouais, ouais, enfin ouais. Moi j'en mange pas, j'aime pas ça.
C'est vrai?
Ouais.
Ah bon?
Ouais.
Vous n'aimez rien dans le mouton, parce que dans le mouton, c'est que c'est le proverbe, tout est bon dans le mouton.
Mais je crois qu'on dit la même chose pour le cochon aussi,
non? On dit ça pour le mouton. Ça dépend de la crèmerie où vous officiez, maître Serral. Regardez, vous avez un masque FFP2, il faut le remonter, voilà, et vous pincez au niveau du nez.
Bah voilà. Je pince, mais là, je commence à avoir un bleu au niveau du nez à force de pincer.
Voilà, mais c'est bien.
Voilà,
il est très bien votre masque.
Ouais, mais est-ce qu'il est à ma taille? Est-ce une taille standard? Ouais, voilà. Alors, soit j'ai un gros nez, soit j'ai des grosses oreilles, mais j'ai du mal, là.
Vous avez vu que moi, j'ai acheté l'élastique qui va avec.
Ouais. Vous voyez? Ouais, j'ai le même pour mon slip. Pour le maintenir.
Maître Serran, comment voulez-vous que je fasse avec vous? Bon. Merci de lutter contre la maladie, maître Serran, et d'officier, d'être là pour répondre aux questions de vos auditeurs qui vous interrogeront dans un instant au 01 53 48 3000. On va commencer par cette question d'un auditeur la semaine dernière qui disait qu'il avait repris le travail suite à la liquidation de sa retraite, et il voulait savoir si les années supplémentaires qu'il travaillait allaient pouvoir justement modifier le montant de cette retraite.
Alors, le principe est simple, c'est-à-dire que si vous avez liquidé vos droits à la retraite et si vous reprenez une activité, eh bien, vous allez cotiser, entre guillemets, dans le vent, puisque vos cotisations ne permettront pas d'augmenter la retraite à laquelle vous pouvez avoir droit. Alors, on a une exception depuis 2015, mais il faudrait que vous puissiez cotiser auprès d'une caisse différente de la caisse initiale. C'est-à-dire que si vous étiez, je dis n'importe quoi, salarié, et si demain, pour une raison lambda, vous exercez une autre activité qui serait qualifiée d'activité dans le cadre d'une profession libérale, donc là, vous pouvez éventuellement prendre ça en considération. Mais j'ai cru comprendre que l'auditeur de la semaine dernière nous disait qu'il reprenait au sein de la même société, donc avec un nouveau contrat. Et dans ce cas-là, malheureusement, ça peut sembler curieux d'ailleurs, mais les cotisations qui seront payées seront des cotisations qui tomberont dans l'escarcelle commune. Mais monsieur ne pourra pas en bénéficier.
Et alors là, on ne peut pas faire une action et attaquer en disant que finalement, on refuse d'être prélevé au niveau des cotisations retraite, puisque de toute façon, on va pas en bénéficier.
C'est une vraie question, parce qu'on a l'équivalent en droit, on appelle ça un enrichissement sans cause. C'est-à-dire que, évidemment, il y a un organisme qui va avoir de l'argent, mais en principe, cet argent doit, au bout d'un moment, revenir donc aux salariés. Je ne sais pas si juridiquement on a eu des procédures de cette nature. Ce serait éventuellement à creuser. Donc, si ce monsieur souhaite que je creuse le problème et que l'on fasse éventuellement jurisprudence, c'est pas exclure. Mais
idem pour le chômage.
Ah, mais même chose.
Quelqu'un qui est à la retraite, est-ce qu'il peut bénéficier du chômage?
Non, complètement. C'est vrai que ça pose une vraie difficulté puisque les cotisations existent. Donc, par définition, à la limite, si il y avait pas de cotisations, ça permettrait même à l'employeur de donner un salaire un peu plus élevé à l'intéressé. Mais là, on cotise normalement, mais on ne bénéficie pas des fruits de cette cotisation. Donc, c'est effectivement assez injuste en la matière.
Bon. Donc, pour répondre à la question de l'auditeur, c'est non.
C'est non.
Voilà. Vous travaillez pour la gloire. Vous travaillez pas pour la gloire. En tout cas, ça ne vous permet pas de bénéficier d'une
non, c'est assez
pension
non.
Plus importante. Ouais. Alors, deuxièmement, sur le travail de nuit.
Oui, hop. Voilà. Un peu de gel.
C'est voilà. Exactement ce que je voulais que vous fassiez.
Le slibard. Voilà.
Alors. Et donc. Vous pouvez enchaîner sur le travail de nuit.
Donc, voilà. On a une question qui nous avait été posée sur le travail de nuit. Alors, on va cadrer un peu les choses. C'est-à-dire qu'on parle de travail de nuit lorsqu'on commence à bosser entre 21h et 7h du matin. Et on parle de travail en soirée lorsque l'on travaille entre 21h et minuit. Mais travail de nuit, c'est 21h jusqu'à 7h du matin.
Mais si on fait tous les jours 3 heures, alors, entre 21h et minuit, c'est pas considéré comme du travail de nuit.
Alors, il faut savoir que, si on fait tous les jours entre 21h et minuit, c'est pas du travail de nuit, c'est un travail de soirée, donc c'est différent. Alors, vous avez, entre guillemets, vous êtes payé plus cher, évidemment, mais le statut de travailleur de nuit est un statut qui va de 21h jusqu'à 7h du matin, en tout cas au-delà de minuit.
Et ce que l'on. C'est-à-dire que quelqu'un qui animerait la matinale, enfin. Le petit matin d'une radio, par exemple, quelqu'un qui ferait le 4h30, 7h.
Alors, ce que vous dites est intéressant, puisque là, vous faites partie des exceptions. C'est-à-dire que là, ça concerne ce qu'on appelle, nous, le droit commun, mais effectivement, dans le domaine de la presse, dans le domaine de l'audiovisuel, il y a des exceptions en la matière. Et donc, là, ce que nous, on va évoquer, c'est le cadre général. Mais votre remarque est tout à fait pertinente, mon cher Philippe. Effectivement, là, on entre dans le cadre des exceptions. Donc, ce que j'évoque et ce que je vais évoquer dans cette chronique
c'est
ne concerne pas.
Ouais,
c'est le cadre général. Après, pour certaines activités, effectivement, il y a toute une série d'exceptions. Il faut savoir aussi que le travail de nuit ne peut pas être effectué, là encore, sauf de manière très particulière, de manière très pointue, les personnes ayant moins de 18 ans. Idem, si vous êtes une femme enceinte, il y a des garde-fous, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte quand même qu'il n'y ait pas... Alors, si vous êtes une femme enceinte ou si vous venez d'accoucher, on doit faire en sorte, évidemment, après avoir consulté le médecin du travail, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact sur votre santé. Ce travail de nuit, donc, qui peut être prévu par des conventions collectives, dans l'hypothèse où il ne serait pas prévu par des conventions collectives, vous avez de facto l'intervention, et ça c'est obligatoire, de la médecine du travail, donc qui doit voir si effectivement vous êtes en état d'eux. Et on a eu un appel, même chose, je crois que c'était la semaine dernière, d'une personne qui, alors sauf erreur, je crois qu'elle travaillait de nuit, qui souhaitait encore travailler de nuit.
Et l'employeur l'a remis sur des horaires
alors,
de journée.
Vérification faite Et mea culpa, je crois que j'ai inquiété la femme de ce monsieur. Il faut savoir que, à partir du moment, et ça fait partie de l'exception, mais à partir du moment où vous passez, en tout cas où on tente de vous faire travailler, soit vous travaillez en journée et on vous demande de travailler de nuit, soit vous travaillez de nuit et on vous demande de travailler en journée, quand bien même cette disposition serait indiquée dans votre contrat de travail en disant c'est comme ça et pas autrement, c'est considéré comme une clause abusive. Et ça signifie qu'il faut l'accord de l'intéressé. Donc, je rectifie la réponse qui a été apportée à cette femme qui appelait donc pour son mari. L'employeur ne peut pas vous imposer ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez donner votre accord, sauf si l'employeur justifie que c'est ça ou il n'y a pas d'autres tâches à donner à l'intéressé. Mais j'ai cru comprendre que c'était plus pour embêter, pour pas dire autre chose, monsieur, et que c'était pour donner cette tranche horaire à une autre personne qui, j'ai cru comprendre encore, elle n'était pas spécialement intéressée. Donc techniquement, ce serait possible. On comprend évidemment que quand on est toujours employé au sein de la société, si vous manifestez votre accord, un employeur de mauvaise foi, un employeur mal intentionné, pourra toujours trouver un moment ou un autre un biais pour faire en sorte de considérer que vous êtes ou que vous seriez en faute. Donc évidemment, c'est pas une position tenable très longtemps, mais juridiquement, ce monsieur donc pourrait éventuellement s'opposer donc à cette option et à cette situation.
Mmh. Il faut combien de temps pour avoir le statut de travailleur de nuit ? Si vous avez travaillé 6 mois la nuit, est-ce que ça fait de vous un travailleur de nuit ?
Alors, si vous avez travaillé 6 mois la nuit, ça va faire de vous un travailleur de nuit. En fait, on va calculer effectivement un certain nombre d'horaires. Excusez-moi, parce qu'avec le masque, là, je viens de me rendre compte que je viens d'embrasser le micro.
Oui.
Voilà, j'ai pas la notion de distance.
De la distance.
Je suis navré. Donc, à partir de ce moment-là, oui, c'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre d'heures qui vont être calculées. Donc, si évidemment vous êtes sur ce timing de 6 mois, vous serez considéré comme un travailleur de nuit. Alors, l'avantage, si tant est que ce soit un avantage, en tout cas pour les personnes qui n'auraient pas choisi ça, il y a un système de compensation, évidemment. Donc, soit c'est un système de compensation par des jours de repos, soit c'est un système de compensation par le règlement donc d'un certain nombre d'heures. Et il y a aussi, si pour une raison X ou Y, c'est un mode de vie entre guillemets qui ne vous convient pas, on a des exceptions, mais là encore ça va être à la loupe. Et parmi les exceptions, vous avez, ça c'est intéressant, si vous vous occupez par exemple d'un membre de votre famille, vous vous occupez de vos enfants pour les emmener à l'école ou autre. Donc il y a vous avez quand même la possibilité d'invoquer ces exceptions. Alors on invoque ces exceptions, ça ne veut pas dire que l'employeur va de facto vous croire sur parole, mais à partir du moment où vous apportez ces éléments de preuve, si par extraordinaire l'employeur considère que vous êtes impénible et qu'on va vous licencier, évidemment le licenciement serait considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais il faut quand même un petit peu de bagage avant de vous engager dans ce type de combat.
Tout à l'heure, vous avez dit, Maître Serran, qu'il fallait le consentement du salarié, donc en cas de changement d'emploi du temps, basculer de la nuit au jour. Si le salarié dit non et que l'employeur maintient sa décision, est-ce qu'il peut y avoir finalement licenciement, et au tort de qui ?
Alors, s'il n'y a pas d'accord entre les uns et les autres, encore une fois,
le salarié dit non, voilà, je ne veux pas basculer
si le salarié dit non, encore une fois, c'est un consentement express, c'est-à-dire que je dois dire oui et je dois dire oui sans contrainte. Mais à partir du moment où, pour une raison lambda, je considère que ces horaires ne peuvent pas me convenir, encore une fois, pour mon cadre de vie ou autre, et quand bien même je n'aurais même pas à la limite à motiver, l'employeur pourrait aller jusqu'au bout de son raisonnement et dire, ah bah, si c'est comme ça, je vais vous licencier. Il faut savoir que le salarié est protégé. C'est-à-dire qu'on considère que c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D'accord. Donc, c'est au tort de l'employeur.
C'est systématiquement au tort de l'employeur. Il faudrait Mais on est dans des cas ultra exceptionnels pour des raisons, j'allais presque dire, de marché ou économique très spécifiques. C'est-à-dire que si l'employeur réussit à démontrer que de toute manière ce poste en journée ne correspond plus à rien, parce que je dis n'importe quoi, ses fournisseurs ont changé les habitudes et que le travail se fait essentiellement de nuit, donc là, il y aurait argumentation. Mais en dehors de ce cas ultra exceptionnel, donc qui arrive quasi jamais, l'employeur devra tirer les conséquences du refus de l'intéressé et lui du refus de son obstination et donc indemniser l'intéressé.
Bien, il y a énormément de questions qui reviennent, Maître Serran, sur les questions d'horaire dans les contrats, hein, pour les personnes qui sont salariées. La semaine prochaine, on fera un dégagement là-dessus de savoir... Oui.
J'espère être parmi vous d'ici la semaine prochaine.
Inch'Allah. Bon, hein, mais... C'est vrai qu'on verra si on peut modifier les emplois du temps des salariés, parce que ça, c'est vraiment des questions de crispation dans les entreprises. 01 53 48 3000, vous avez une question à poser à Maître Serran. Profitez-en, aujourd'hui, c'est les soldes. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et vous posez ce matin vos questions juridiques à Maître Serran au 01 53 48 3000 et nous avons Kaina qui est avec nous. Kaina, bonjour, bienvenue.
Bonjour Maître, bonjour Philippe.
Bonjour Kaina.
Bonjour. Voilà, j'ai une question, j'appelle. Donc je suis en litige avec mon employeur, ça fait depuis 2020 que je suis sous contrat avec lui.
Ouais.
Donc bon, après il y a eu tout ce qui s'est passé, Covid et tout. Ensuite, moi je voulais pas reprendre, donc bon, comme un accord, j'ai proposé une rupture conventionnelle. Il était d'accord. Et entre temps, bah ça a traîné. Il a pas voulu me la faire. Moi je voulais pas faire ma démission pour pas perdre mes droits. Ensuite, j'ai été en arrêt maladie. Et puis comme j'ai vu que il me faisait galérer en fait, entre guillemets, donc bon, je me suis mise en arrêt maladie. Mais j'ai quand même en fait manifesté mon intention de reprendre. Donc je sais pas si j'ai bien fait les choses, j'ai envoyé un recommandé en disant que je souhaitais reprendre le travail. Je me suis même présentée le jour où je devais reprendre. Il m'a pas reprise. Et là depuis ça traîne depuis donc 2021, j'ai été le voir et il me dit de renoncer à mes congés payés, enfin il m'avait dit la dernière fois que je l'ai vu. De renoncer à mes congés payés de octobre 2021 jusqu'à mars 2022. Et depuis, c'est en attente. Donc, faut savoir que j'ai retrouvé un travail à temps partiel, parce que j'étais sans revenu, donc j'ai trouvé un travail à temps partiel, mais je suis toujours en suspens.
Mais là, c'est-à-dire qu'avec cet employeur, donc il refuse de vous reprendre, mais il vous a pas licencié.
Il m'a pas licencié, il a continué à m'envoyer des plannings. Alors, il m'a envoyé un planning. Je vous donne un exemple. Par exemple, je suis censée travailler aujourd'hui. Il va m'envoyer le planning la veille, quoi. Pour le lendemain, enfin, c'était des plannings comme ça. Après, c'était des fiches de paye à 0 euros. Et là, j'ai plus rien.
Mais là, concrètement, oui. C'est-à-dire que... Alors, vous, votre position, je l'entends, je la comprends. Mais lui, il vous dit quoi? Il vous dit, c'est vous qui ne voulez pas reprendre. Il vous dit, j'ai pas de travail à vous fournir, je ne veux pas vous reprendre. C'est quoi sa position?
Non, il m'a, alors, sa dernière chose, c'est fait ta démission.
Alors d'abord, oui Philippe.
Moi j'ai une question. Au moment où vous avez parlé de rupture conventionnelle, Kaina,
oui.
Est-ce que c'est quelque chose dont que vous avez évoqué par mail
Verbalement, j'ai évoqué verbalement avec lui.
D'accord. Il y a jamais eu de trace écrite en concernant
non,
cette.
Non, il y a eu écrite mais pas signée. J'avais commencé à remplir le papier. Après, je crois qu'il y avait un préavis. Après, il était d'accord. Après, on pouvait pas la faire à la date en avance.
Ce qu'évoque Philippe est intéressant puisque ça permettrait éventuellement d'apporter des preuves. C'est-à-dire que si demain, et là manifestement, Kaina, vous devriez en tout cas saisir les prud'hommes, mais vous allez être en litige avec l'intéressé. Vous pouvez pas rester tel que. Mais au moins, ça permettrait d'apporter de l'eau à votre moulin pour dire mais. J'ai proposé une rupture conventionnelle. Dans un premier temps, l'intéressé, en tout cas la société, était favorable. Et ensuite, pour des raisons lambda, il a voulu faire le malin. Mais il peut pas exiger de vous la démission. C'est-à-dire que si y a plus de travail qui vous est fourni par la société, c'est la société qui est en tort. Donc dans ce cas-là, vous avez le droit de demander un licenciement et ce sera au tort de la société. Mais on peut pas faire végéter un salarié ne pas lui fournir de travail. C'est une obligation hein, pour la société de fournir à son salarié, donc du boulot, hein, par définition. Je crois même que vous avez été suffisamment patiente, donc je crois qu'à ce stade-là, alors sauf évidemment si il revient sur sa décision, mais quand bien même il reviendrait sur sa décision, enfin l'ambiance est selon moi définitivement plombée. Mais
c'est de la restauration rapide. Voilà, en plus c'est une petite chaîne, on va dire, ça va un peu comme les franchises.
Ouais. Non, dans ce cas-là, je crois qu'au bout d'un moment, faut pas faire de cadeaux et puis saisir les prud'hommes et l'attaquer tout simplement.
Mais si vous avez un emploi du temps et que vous n'allez pas, faire la vacation pour laquelle vous êtes planifié, vous n'êtes pas en absence injustifiée ?
Non, il m'a rien mis.
C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, c'était abandon de poste.
Il m'a rien fait, en fait. Il m'envoyait des plannings et des fiches de paye à 0 €. Alors, je me rappelle plus s'il m'a mis absence non justifiée. Je me souviens plus.
Ah non, mais ça c'est important.
La question est de savoir, est-ce que,
à ce moment-là, il peut vous licencier, justement, pour absence injustifiée.
Parce que si on considère qu'on en est au stade de l'abandon de poste, c'est-à-dire, je vous demande de venir, voici le planning et que vous vous présentez pas, l'argumentaire change et serait en faveur de l'intéressé. Donc faut faire attention à ça. Donc regardez quand même ce qu'il en est pour pas non plus engager une procédure et à la fin recevoir un coup de gourdin sur la tête.
Ben c'est ça en fait, avant de m'engager, parce que ça traîne quand même. Donc là ça fait un an que je suis sans travail, j'ai pas repris. Il veut rien savoir. Après voilà, lui ce qu'il veut c'est que je fasse ma définition. Et en plus je travaille à côté de là où je travaillais. Il m'a même dit de sa bouche, parce qu'il croyait que je travaillais pas déclaré. Il m'a dit, je t'ai pris en photo, tu travailles, je t'ai pris en photo. Donc déjà, je peux même porter plainte pour qu'il n'a pas le droit de me prendre en photo. Après, je sais pas si ça serait valable, parce qu'en fait, j'ai un mail qu'il m'avait envoyé il m'avait fait un licenciement. Mais il a pas eu lieu. Mais j'ai la trace par mail. Est-ce qu'il serait valable, ça? Sachant que j'étais encore sous contrat avec lui.
Quand on a un licenciement, par définition, c'est qu'on est sous contrat avec quelqu'un. C'est-à-dire que est-ce qu'il vous a envoyé une convocation, un entretien préalable, ensuite
rien, rien, rien. C'était un mail.
C'est un mail qui dit quoi?
Qui dit que qui me licencie. Alors, j'ai pas préparé le mail sous les yeux. Si je le retrouve, j'aurais pu vous le lire. Maintenant, après, est-ce que moi, je dois prendre un avocat? Est-ce que je dois... Bon, c'est-à-dire les prud'hommes, ça, c'est sûr, c'est en cours. Je suis en train d'appeler les prud'hommes.
Vous avez bien compris ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire comme ça, spontanément, on se dit qu'il faut saisir les prud'hommes. Être, entre guillemets, carré de votre côté. Parce que si c'est pour saisir les prud'hommes et avoir un retour de boomerang en plafond, c'est un peu terrible comme situation. Donc, faites attention à ça. Alors, ce qui me surprend et ce qui peut plaider en votre faveur, c'est-à-dire que si ça fait X temps que vous êtes dans cette situation assez fantomatique, s'il avait voulu vous licencier pour abandon de poste, il aurait pu le faire il y a bien longtemps. On garde pas quelqu'un X mois pour ensuite dire, écoutez, c'est un abandon de poste. Donc, voilà. Donc, il faut quand même reprendre de manière très précise la chronologie de votre histoire pour voir si c'est intéressant ou pas d'entrer dans ce combat. Vous avez combien d'années d'ancienneté au sein de cette boîte?
Si on compte, on va dire 2 ans. C'était en 2020.
Bon, alors il faut... Posez-vous quand même la question, parce que 2 ans, alors pardon pour le terme, ça, entre guillemets, en matière d'indemnisation, ça vole pas haut. Si vous ajoutez à ça, et si vous prenez un avocat, les frais d'avocat, vous voyez, c'est quand même une question sérieuse à se poser avant de se lancer dans la bataille. Hein.
Après, il y a le principe, comme on dit souvent.
Après, ça peut être le principe, voilà, c'est-à-dire qu'on peut se dire, je considère que je ne suis pas fautif et donc je vais jusqu'au bout du bout. Mais le principe a un coût. Mais reprenez un peu les détails de ce que vous êtes en train de me dire et faites attention. Alors reprenez peut-être les mails et autres, vraiment pour voir si entre guillemets il y a rien de votre côté qui pourrait jouer en votre défaveur.
De mon côté, Le fait de reprendre
un emploi. Alors, vous avez un contrat dans votre nouveau.
Oui, un contrat partiel parce que.
Ouais. Mais le fait de reprendre un emploi alors qu'on est déjà salarié, est-ce que c'est pas
ça pose une difficulté.
Après, j'avais posé la question à Pôle Emploi. Enfin, apparemment, je sais pas si j'ai dépassé. En fait, on peut cumuler un deuxième emploi quand on est à.
Ouais.
Jusqu'à 48 heures.
Ouais,
par
mais est-ce que vous leur avez expliqué la situation dans laquelle vous êtes? C'est aussi ça. C'est-à-dire que si vous êtes ma salarié. Alors après, je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez et autres, mais il y a quand même, entre guillemets, une obligation, on va dire, de fidélité à l'égard de la boîte. Donc voilà, il faut vraiment s'interroger. Et c'est pour ça que je vous dis, ne foncez pas comme ça, tête baissée. Hein.
Oui, d'accord.
Ouais, donc bon, il faut vraiment faire attention à ça.
D'accord. Et pour un avocat, de toute façon, quoi qu'il arrive, bon, j'aurai droit à l'aide juridique. Donc, c'est vrai qu'au niveau des frais, bon, ça va être pour moi, ça va être déjà au moins une.
Alors, ce que vous dites est intéressant, il faut savoir qu'à l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle se pose quand même la question de savoir si la procédure, entre guillemets, alors pardon, il ne s'agit pas de dénigrer votre procédure, si la procédure n'est pas une procédure qui pourrait sembler, on va dire, farfelue. Puisqu'on va vous mettre à disposition un avocat. Et donc, et d'ailleurs, au premier rendez-vous, avec les éléments que vous donnerez à l'avocat, il vous dira si c'est entre guillemets, comme on dit, jouable. Hein.
D'accord. Bon, bah, il me reste alors à trouver un avocat, donc ça, je peux. De toute façon, je suis obligée de faire. De toute façon, il ne me licenciera pas. Il fait ça pour m'embêter.
Ouais, enfin, quel serait l'intérêt pour lui de vous laisser en suspens comme ça, enfin.
Je sais pas quoi vous dire.
Ouais, alors ça lui coûte une feuille avec un bulletin de salaire à zéro, mais enfin, quel serait l'intérêt? Il y en a aucun en vérité.
Ouais, il y en a aucun. Bah, il y en a aucun. Il pourrait me licencier. En plus, il connaissait mes difficultés, il connaissait ma situation, mais. Il me laisse comme ça. Donc j'ai été le voir à plusieurs reprises, j'ai discuté avec lui. Je lui ai même dit que je reviendrai travailler à temps partiel pour faire un petit peu la cuisine et tout, refaire un autre contrat et tout, mais au moins pour finir ce contrat avec lui. Il était d'accord et tout, mais là il me laisse comme ça.
Ouais, mais enfin, il vous a dit ce qu'il voulait. Il a dit donne-moi ta démission. Ouais, c'est ça. Donc en fait,
après il me dit de me donner sa démission.
C'est ça, qu'il veut.
De renoncer à mes congés payés.
Alors, ce qui va être important, il faut faire attention, il ne faut pas non plus trop tarder pour saisir le conseil de prud'homme.
Oui.
Parce qu'évidemment, un conseil de prud'homme vous dira, mais attendez madame, on ne comprend pas pourquoi vous avez mis X temps ou X mois pour nous saisir et demander la mise en place de vos droits. Donc voilà, hein, alors je ne dis pas que c'est trop tard, mais au moment où on se parle, il ne faut plus tarder. Hein.
D'accord. Ouais, de toute façon, c'est ce que je vais faire.
Ok, écoutez, bon courage à vous.
Merci en tout cas.
Votre appel.
Merci à vous. Au revoir.
Ne lâchez rien, Kaina. Merci pour votre question. D'autres appels dans un instant. Si vous avez une question juridique à poser à Maître Serran, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, vos questions juridiques à Maître Serran au 01 53 48 3000. On va à Toulouse, et Nadia est à Toulouse. Bienvenue Nadia.
Bonjour.
Bonjour Nadia.
Bonjour Nadia.
Bonjour. Alors, moi j'ai une question concernant le travail de nuit. C'est pour mon mari. Donc il est conducteur routier depuis 2010. Il a toujours eu une tournée clairement définie avec une pause à l'hôtel. Sachant qu'entre-temps, il demande souvent de basculer sur la journée. En évoquant bien sûr la situation familiale et tout, donc dans les entretiens annuels et tout, mais l'agence déménage, c'était l'occasion justement pour revoir son contrat et puis de lui proposer quelque chose la journée, mais là on lui propose une autre tournée, toujours la nuit, mais ce n'est pas la même, sachant que la pause maintenant est dans le camion et plus dans l'hôtel, il y a nos horaires aussi qui changent. Et pour la journée, ils lui disent qu'il faut attendre de voir comment le travail va évoluer. sachant que mon mari était prêt aussi à être muté, puisque justement là où il travaille, il n'y a pas de tournée de journée. Donc par rapport à ça, donc là il lui a proposé la mission, de signer un ordre de mission en début de semaine, et lui demande de lui signer pour la fin de semaine.
Ah, le truc, c'est qu'on reste toujours dans les horaires de nuit, même si oui. J'ai bien compris que c'était une autre tournée. Ça y est, un principe oui. En la matière, c'est-à-dire que si je bosse de nuit, et puis si demain, pour une raison lambda, j'ai envie de travailler en journée, je peux poser la question à mon employeur, mais ça va être aussi en fonction des postes qui seront disponibles. S'il n'y a pas de poste disponible, donc je peux être considéré comme prioritaire, mais prioritaire, ça signifie qu'il y a à minima un poste dispo. S'il n'y en a pas, je vais rester de nuit. Mais là, la difficulté, c'est que il travaillait déjà de nuit, et si ce changement que vous évoquez correspond à une réalité, c'est-à-dire que si, je le redis, si le patron fait ça pas pour vouloir nuire à votre mari, entre guillemets, pour le pousser à la démission, pour lui rendre la vie plus compliquée, mais s'il fait ça de bonne foi et que c'est justifié par les contrats de la boîte, ça me semble difficile de refuser ce point-là. Parce que ça voudrait dire, pour être clair, il refuse. S'il refuse, alors la société pourrait décider de le licencier. Et cette discussion qu'on a, à savoir est-ce que l'employeur est de bonne ou de mauvaise foi, se fera devant un conseil de prud'homme. Alors, est-ce qu'il faut courir ce risque-là? Selon moi, ça me semble un peu dangereux. Et vous, ou votre mari en pense quoi? Il se dit le type est de bonne foi et bah, il n'a pas le choix.
Oui, tout à fait. Bon, ils ont fait en sorte qu'il y ait une autre tournée, c'est-à-dire que sa tournée, ils l'ont sous-traité. Ils ont licencié celui de l'autre tournée pour la confier à mon mari.
Bah, c'est pour des raisons. Alors, si on se met du côté de la société, pour des raisons purement économiques, quoi. C'est-à-dire
Tout à fait.
Donc là, ça me semble difficile d'entrer en litige et de dire bah, je refuse. Je le redis, le chef d'entreprise est là aussi pour faire tourner sa boîte. Alors, parfois, c'est en prenant en considération l'intérêt des salariés. Parfois, ça peut être considéré comme contre l'intérêt des salariés. Mais il a une boîte à faire tourner quand même. Et là, rien lui interdit de sous-traiter et de dire, cher monsieur, maintenant, votre tournée se fera de tel endroit à tel endroit.
L'idée de, n'est pas bien sûr d'entrer en litige. L'idée, c'est que mon mari se sent pas écouté, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours tous les ans des entretiens annuels où on lui demande qu'est-ce qu'il souhaiterait. Ouais. Donc, il exprime encore et encore sa volonté de basculer en journée et qu'il est prêt même à changer de département puisqu'ils ont plusieurs agences.
Alors, il y a en droit, on appelle ça une obligation de résultat. C'est-à-dire, l'obligation de résultat, c'est que je dois vous donner satisfaction. Là, c'est une obligation de moyens. C'est-à-dire que oui, il y a un entretien annuel, et puis vous allez me faire part de vos souhaits. Et puis, je vais voir si vos souhaits sont compatibles avec la gestion de ma société. Donc, alors c'est frustrant, c'est en se disant, ça fait 15 fois que je rencontre un délégué ou le représentant de la boîte ou le chef d'entreprise directement, je lui dis voilà mes souhaits et puis ça n'aboutit pas. Mais il n'y a pas cette obligation, c'est-à-dire, il y a un entretien et puis si la situation le permet, s'il y a un poste qui se libère, il peut être considéré comme prioritaire. Mais il n'y a pas d'obligation au sens juridique du terme. De donner satisfaction.
Mon mari pense qu'ils veulent pas faire d'efforts et tout parce qu'il y a justement des possibilités, mais comme mon mari justement a eu un bon salaire de nuit et tout, je pense que ça les embête de lui trouver un travail pour lequel ils pourront le payer de la même façon, d'après ce que me dit mon mari.
Alors vous avez bien compris que moi je le déconseille, mais c'est un risque à courir, c'est-à-dire que si il a l'impression que ce refus n'est pas motivé par des raisons économiques, il y a rien qui interdirait, j'ai conscience de ce que je suis en train de vous dire, à votre mari de dire bah si c'est comme ça on va aller s'expliquer devant une juridiction, mais Bon, vous avez bien compris le truc. C'est-à-dire qu'on veuille ou non, le salarié n'est jamais en position de force. À partir du moment où il s'amuse à faire un truc pareil, il risque d'être blacklisté et d'avoir tous les emmerdements du monde.
Non, non, à part ça, ils ont des relations cordiales. Hein. Bon. C'est juste que voilà, il a un peu marre de travailler de nuit et il veut bien rester dans la boîte et évoluer, mais de façon à ce qu'il soit bien dans sa vie personnelle. Et voilà.
C'est légitime. Mais encore une fois, voilà, ça va dépendre aussi, alors pas que de la volonté de l'un ou de l'autre, mais des contrats de la boîte. Et je le redis, s'il n'y a pas de poste en journée qui se libère ou qui se crée, votre mari peut pas, entre guillemets, imposer sa présence en journée.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Je vous remercie.
Merci à vous pour votre appel. Ah,
merci Nadia.
Au revoir. Au revoir.
Alors après, il y a aussi des entreprises où les DRH font tout pour essayer de donner satisfaction aux salariés parce que leur intérêt, c'est aussi que le gars, il soit à l'heure, qu'il vienne travailler tous les jours et que l'entreprise, elle tourne bien. Hein. Il y a les deux.
Mais heureusement, d'ailleurs, il y a des boîtes qui sont vertueuses. Encore une fois, il vaut mieux, comme vous dites, quand
c'est possible. Maintenant, on dit vertueux, mais c'est vrai qu'il y en a qui font leur métier.
Mais voilà, mais donner satisfaction quand c'est possible à son salarié, puisqu'un salarié qui est satisfait est un salarié qui va s'investir pleinement.
Qui bosse mieux, soi-disant.
Mais bien sûr, mais c'est une réalité. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des sociétés qui, entre guillemets, sont sérieuses et qui prennent ces éléments-là en considération, heureusement.
On accueille Faouzi. Faouzi, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour
monsieur Maître Serran.
Bonjour Faouzi.
Je voulais avoir une question, s'il vous plaît, pour le regroupement familial.
Oui.
C'est possible?
Allez-y Faouzi, bien sûr.
Oui. Là, j'ai déposé un dossier de regroupement familial. Ça fait un an et demi, là, et à chaque fois, je les appelle, ils ne répondent pas. Et à chaque fois aussi, j'envoie des mails, c'est bloqué. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une réponse favorable? Mon dossier, il est à l'OFI, hein.
Ouais. Est-ce que vous avez eu au moins le début du début, c'est-à-dire est-ce qu'un représentant de la mairie a débarqué pour voir un peu...
Oui, ils sont venus voir la maison et tout ça.
Bon, a priori, il vous a laissé entendre qu'il n'y aurait pas de problème ?
Non. Ils m'ont dit, le dossier il est à l'OFI, on attend qu'on l'envoie à la préfecture et puis pas de réponse jusqu'à maintenant.
Alors, le truc, c'est que en vérité, juridiquement... à partir du moment où il y a eu cette première étape, c'est-à-dire un représentant de la mairie qui débarque au domicile pour voir si c'est conforme aux critères, et à partir du moment où le rapport est établi, il n'y a pas, entre guillemets, de délai annoncé. C'est-à-dire que, alors, que l'avocat vous dise c'est long, ça va pas vous aider. La seule possibilité, c'est éventuellement de tenter de les harceler, mais vous savez, même nous, en qualité d'avocat, on en est là. C'est-à-dire que, alors, on essaie de les joindre par téléphone, c'est pas toujours évident. On multiplie les mails, c'est pas toujours évident. Et puis, on en revient à la bonne vieille méthode du recommandé.
Mais c'est pas la peine, c'est bloqué.
Eh oui, c'est toute la difficulté. Alors, le seul truc qui est pas bloqué, c'est le recommandé avec accusé de réception. Ce qui serait éventuellement possible. Mais,
pourquoi c'est pas bloqué?
De quoi? Le recommandé avec accusé de réception?
Ouais, pourquoi?
Non, parce qu'on sait que, on a l'accusé de réception qui revient, c'est-à-dire que...
Oui, mais est-ce qu'il y a obligation de vous répondre aussi?
Ah non, c'est toute la difficulté. Ouais. Non, mais au moins.
On sait que c'est arrivé.
On sait que c'est arrivé à destination. Mais, alors pourquoi? Et quel intérêt de faire ça? C'est que vous auriez la possibilité, c'est une procédure qu'on ne faisait pas il y a quelques années, de saisir en urgence, on appelle ça un référé, le tribunal administratif pour demander au tribunal administratif d'obliger les services de l'OFI à vous recevoir, à vous apporter une réponse. Mais vous voyez, j'allais presque dire la bêtise du truc, c'est-à-dire qu'avant on saisissait le tribunal lorsqu'on avait une réponse négative. Aujourd'hui, nous arrive de saisir le tribunal en urgence pour simplement obliger, que ce soit la préfecture, l'OFI, peu importe, en tout cas l'administration, à au moins nous recevoir ou à traiter notre dossier. Donc vous pourriez éventuellement faire ça. Et d'ailleurs, les procédures de référé ont tendance à se multiplier, que ce soit pour obtenir un rendez-vous à la préfecture, que ce soit pour tordre la main, entre guillemets, au service de l'OFI, pour dire « Attendez, on comprend pas, ça fait X temps que le dossier est chez vous et puis ça n'avance pas ». Donc, il y aurait cette option-là.
Et en l'occurrence, l'urgence, c'est combien de jours?
En la matière, encore une fois, alors ça va dépendre aussi de ça fait combien de temps que la procédure est en cours, qui doit venir, est-ce qu'il y a que madame ou est-ce qu'il y a des enfants. Donc il y a quand même toute une série de critères, mais un tribunal pourrait considérer que n'importe quoi, que un an ou un an et demi, c'est pas particulièrement long et que monsieur doit ou devrait faire preuve encore de patience. C'est ultra subjectif, hein, et d'un magistrat à un autre, on a des variantes. Mais sinon, il n'y a pas d'autre option, vous voyez, parce que quand bien même un tribunal ne vous donnerait pas satisfaction, au moins il y a une sorte d'électrochoc auprès de l'administration pour dire on a quelqu'un qui, pardon pour l'expression, mais qui lâche pas l'affaire.
Ouais.
Malheureusement on en est là, hein, c'est-à-dire que les administrations mettent du temps et donc on est obligé de dégainer maintenant assez rapidement, ce qu'on ne faisait pas il y a quelques années.
Ouais, ce que je comprends pas, j'ai un ami et ça fait un an qu'il a eu sa réponse directement, mais ça a été négatif. Hein. C'est pas...
Ah, alors attention, voilà. C'est-à-dire que vous avez bien compris que tout ce que je suis en train de vous dire pourrait aussi aboutir à un magistrat qui dise à l'administration, vous allez recevoir monsieur, l'administration pourrait dire, ah ben non, monsieur, on veut pas. Alors après, il y a des voies de recours. Mais ce que je vous dis là, voilà, ne vous assure pas d'une réponse positive en bout de course. Hein.
D'accord.
Voilà.
Ok, je vous remercie.
Merci à vous pour votre appel. Bon courage.
Merci, au revoir. Au revoir tout le monde.
Merci Fauzi pour votre appel.
Merci beaucoup.
Merci. Voilà, Maître Serran, vous avez été courageux.
C'est gentil, parce que depuis tout à l'heure, vous me tapez sur la tête en disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quand, comment. Mais c'est gentil ce que vous dites. Là, vous terminez bien.
C'est ça, hein?
Ça me fait plaisir.
Là, maintenant, vous allez aller à la pharmacie, vous allez mettre votre petit coton-tige dans les narines.
Ouais. Ah, c'est dans les narines?
Ah, ben.
Ce qu'il faudrait, c'est que je prenne ma température d'abord. D'ailleurs, est-ce que ça existe encore, les gens qui prennent la température avec un truc dans le fiacre? Quand on était jeune, on faisait ça.
Alors maintenant, on ne peut plus. En 2022, ouais.
Avant, on faisait ça. Hein.
On peut. Alors, il y a des gens sur le plateau qui disent qu'ils peuvent.
Ah, on peut.
Mais
encore.
Là, je ne donnerai pas de nom. Ouais. Mais sous le bras. Ouais, non, c'est dans la narine, enfin dans les deux même.
Ouais, dans les deux narines.
Et là, c'est toute la famille qui va y passer. Hein. Je dis, ça va vous coûter une blinde. Hein.
Oh, carrément.
Ah ouais, là, vous êtes sur du. Au moins sur du 300 balles.
Ouais, mais comme.
Vous êtes sur du 300 euros de test, là,
d'accord,
Maître Serran, parce que vous êtes une grande famille.
La chaîne de responsabilité, je crois que ça vient de la radio Beurre FM, donc je vais vous envoyer la facture.
Oh, tu parles, point de fois. Alors là, Maître Serran, c'est pas bien ce que vous faites. Maître Serran, qu'on retrouve vendredi prochain.
Inch'Allah.
Et puis très bonne fête de l'Aïd par avance à
c'est
tous.
C'est vrai, bonne fête de l'Aïd.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.